Alors, bon matin à vous tous. Merci aussi à Will et son équipe pour leur chant. Et ce beau désir que le Seigneur nous parle, nous avons tous besoin, moi le premier, d'entendre sa voix. Alors ce matin, nous continuons notre étude de l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes vraiment bénis de posséder la parole de Dieu dans notre propre langue. Et vous allez vous rappeler que Jackie Eno nous a rappelé cela. Et quelle bénédiction, n'est-ce pas? Et ma prière, c'est que le Seigneur continue à nous bénir à travers cette section doctrinale, Romains 1 à 11, mais aussi tellement pratique, tellement de bonnes choses, de belles vérités que nous pouvons appliquer dans notre vie et pour notre marche chrétienne. Alors nous nous approchons de la fin de cette grande section, Romains 9 à 11, où Paul traite le sujet de Dieu et Israël. Un sujet qui est important, qui est capital, qui est vital, qui est pertinent, car il nous révèle le caractère de Dieu, de notre grand Dieu et Sauveur, et cela nous permet de mieux le connaître. Et je pense ici à ce désir de Paul qui avait toute sa vie. Dans Philippiens 3, 8, Paul va dire ceci: « Je considère toute chose comme croix, une perte, à cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Et ce matin, je vous demande, et je me demande aussi, est-ce que c'est notre désir de mieux connaître notre grand Dieu et Sauveur? Alors, regardons notre texte pour ce matin, Romains 11, versets 23 à 27. Et le thème, c'est la restauration d'Israël. Et nous allons voir ce que cela nous révèle à propos de Dieu. Alors, nous allons lire, on va lire à partir du verset 22 pour nous remettre dans le contexte. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, Romains 11, 22, et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, parlons des Juifs, Israël, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, en parlant justement des païens, des non-juifs, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur le propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et quel beau texte, verset 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Et juste rapidement, nous allons faire un petit résumé de chapitre 11 que nous avons vu la dernière fois. On parle de cette mise de côté, pas un rejet, mais une mise de côté d'Israël, comme nous avons vu la semaine dernière, qui est seulement partiel. Et nous avons vu ce texte qui dit qu'il y avait toujours un reste que Dieu avait réservé selon l'élection de la grâce. Nous avons aussi cette mise de côté qui est passagère, parce que Paul va nous parler de leur réintégration dans Romains 11, 15. Planifiée selon justement le plan de Dieu, pour que le salut devienne accessible aux païens, et en retour, que le salut que les païens reçoivent, devrait exciter Israël à la jalousie quand il voyait toutes les bénédictions dont jouissaient les chrétiens dans l'Église. Nous avons vu aussi que cette mise de côté la semaine dernière pourrait être problématique dans le sens que le non-juif, le païen, pourrait regarder Israël et mépriser cette nation, de devenir orgueilleux. Et à trois fois, l'apôtre Paul va justement donner cette exhortation. Ne t'abandonne par l'orgueil. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Ne vous regardez pas comme sage. Et nous avons simplement, nous avons vu cela la semaine dernière. Alors ce matin, on va parler de la restauration d'Israël. Et cela est pour la prééminence de Dieu, pour sa plus grande gloire. Dieu va restaurer Israël un jour. Et le but dans tout cela, c'est que Dieu soit glorifié. Et ça, c'est où est-ce qu'on s'en va? Le verset 36 va terminer cette section doctrinale. Et Paul va dire ceci, il va justement s'émerveiller devant tout ce que Dieu a fait. Il va dire, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Wow! Et ça, c'est notre Dieu, notre grand Dieu que nous voudrions mieux connaître. Alors ce matin, qu'est-ce que la restauration d'Israël nous révèle à propos de notre Dieu? Et dans un premier temps, la restauration d'Israël nous révèle la bonté de Dieu. Cela nous révèle la bonté de Dieu. Le texte, verset 23, nous dit ceci, « Eux d'eux-mêmes, Romains 11, 23, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. » Et là, le texte nous montre alors cette ouverture que Dieu laisse à cette nation. Israël, malgré les privilèges extraordinaires dont elle jouissait, avait rejeté Dieu. Et par ce fait même, avait rejeté justement le salut que Dieu leur offrait, la justification par la foi. Ça, c'est les versets et les textes dans Romains 9 et 10. Et malgré cela, Dieu offre aux Juifs la possibilité de retrouver leur place privilégiée. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a été bon envers les non-juifs, les païens, et on a vu cela, l'olivier sauvage, pour les greffer selon l'olivier franc. On a parlé des bénédictions qui découlent justement de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et Dieu a pris des non-juifs et il les avait mis là, dans sa bonté, pour qu'ils puissent jouir de ces bénédictions. Et Dieu aussi sera aussi bon pour la nation d'Israël. Et eux de même aussi, verset 3, jouiront aussi de la bonté de Dieu dans leur restauration dans un temps futur. Ça, c'est le Dieu d'Israël. Bon pour les non-juifs, bon aussi pour les païens, pour les juifs. Notre Dieu qui est bon. Je vais donner juste quelques textes pour souligner cette vérité. Psaume 35, 5 nous dit ceci, « La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Psaume 119, 64, « La terre, ô Éternel, est quoi? Pleine de ta bonté. » Psaume 145, 9, le psalmiste va dire ceci, « L'Éternel est bon envers tous. » C'est ce que nous appelons la bonté commune de Dieu, cette bonté de Dieu là, qui s'étend envers toute la création. Et je vous donne l'exemple de cela dans le sermon sur la montagne. Jésus va parler justement de cette bonté. Il va dire ceci, que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il va faire pleuvoir sur les justes et les injustes. Ça, c'est la bonté commune de Dieu dont jouissent tous. Que ce soit le meurtrier, l'idolâtre, l'athée, le sataniste, tout ce monde-là, il y a une bonté commune dont jouit tous à cause du fait que Dieu est bon envers tous. Mais dans le contexte de Romains chapitre 11, de notre texte, cela nous parle de ce qu'on appelle la bonté particulière de Dieu et cette bonté-là a un but spécifique. Pas besoin d'y tourner, mais Romains chapitre 2, verset 4 nous dit que la bonté de Dieu, pas la bonté commune, mais la bonté particulière de Dieu pousse les gens à la repentance. Et ça, c'est le type de bonté que nous allons ici, que Dieu va exercer maintenant à l'égard de Israël. Et ça, c'est ce que Paul veut souligner au verset 22. Quand il va parler justement aux païens, au verset 22, il dit « Vous avez été sauvés par la bonté de Dieu qui vous a poussé à la repentance et à la foi initiale. » Nous avons vu cela la semaine dernière, que la foi commence, le salut commence par un acte de foi initial qui nous sauve de la pénalité du péché. Mais le salut ne s'arrête pas là. Le salut est aussi un processus continuel où nous sommes en train d'être sauvés du pouvoir du péché. Le croyant, le vrai croyant, va persévérer. Et c'est ce que Paul va dire. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Que le salut continuel nécessite la bonté continuelle de Dieu, nécessite qu'on commence par la repentance, mais aussi ça continue par la repentance continuelle. Parce que quand on est sauvé, on ne devient pas des saints avec des ailes puis un halo. Nous tombons aussi de temps à autre dans le péché. On appelle ça des accidents de parcours. Et nous avons besoin justement de confesser nos péchés, de se repentir continuellement et de laisser la bonté de Dieu nous pousser à la repentance. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Si tu demeures ferme dans cette bonté, si tu es un chrétien qui est caractérisé par un cœur qui est tendre et pas endurci, et quand tu tombes dans le péché, tu sais quoi faire avec. Autrement, Paul dit, tu seras retranché. Ça veut dire que ta foi n'a jamais été authentique. Et ça, c'est la foi particulière qui pousse les gens à la repentance et qui les fait aussi persévérer parce que cette bonté-là leur démontre la laideur du péché, mais aussi la grâce de Dieu. Alors, eux de même, les Juifs, maintenant, dans notre texte pour ce matin, comme les païens, connaîtront un jour cette même bonté et dans les mêmes conditions. Romains 10, 21 nous dit ceci. Dieu a tendu ses mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Ça, c'était Israël avant. Mais un jour, au sujet d'Israël, la résistance va être remplacée par la repentance. Qu'est-ce que Paul dit? S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Cette résistance-là, Dieu dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Et Paul dit, eux de même, s'ils ne persistent pas dedans, ils vont être restaurés. Vous voyez, Israël qui résiste. Et le mot, c'est intéressant ici, c'est le même mot pour demeurer ferme. Paul dit aux païens croyants, il faut que tu demeures ferme, il faut que tu sois tenace. Il faut que tu persévères dans la bonté de Dieu. Puis il dit le contraire pour Israël. Il dit, le juif qui persévère dans l'incrédulité, il doit faire quoi? Il faut faire le contraire. Et cela veut dire quoi? Simplement de changer complètement de direction. Ça invite une volte-face, un 180. Et ça, c'est la définition de ce qu'on appelle la repentance. On s'en va dans cette direction, on tourne et on va dans l'autre direction. Et ça, c'est ce que est exigé d'Israël. De ne pas persister dans l'incrédulité, mais de se repentir et de tourner dans l'autre direction. Alors, la bonté de Dieu, à un moment donné, va faire en sorte que la repentance va remplacer la résistance. Deuxièmement, cette bonté de Dieu particulière que Dieu va exercer à propos d'Israël, s'il ne persiste pas, mais dans quoi? Dans l'incrédulité. Vous savez, c'est bon d'être persévérant. C'est bon d'être tenace. C'est bon de ne pas lâcher de morceaux, comme on dit souvent. Mais il faut que ce soit dans les bonnes choses. Alors, Romains 9, 32 nous montre Israël, qui cherchent une loi de justice. Israël, vous vous dites, a été tenace. Israël a été persévérant, mais complètement à côté de la traque. Et ce que Paul est en train de dire ici, parce qu'eux, ils cherchaient la justice de Dieu, ils étaient zélés pour Dieu, mais il dit sans intelligence. Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils cherchent à avoir une justice comme provenant des œuvres. Et ça, c'était justement un signe, une marque d'incrédulité. Et même encore aujourd'hui, tu vois en Israël, comme j'ai déjà dit, tu vas avoir une nation qui est incrédule. Il y a des gens qui, là-dedans qui sont des apostats. Il y a des gens aussi qui sont très religieux. Mais tous les deux sont complètement dans l'incrédulité. Ils attendent encore le Messie. Un jour, tout cela va changer. La bonté de Dieu va les pousser à la repentance et à la foi. Psaume 73, au verset 1, le psalmiste dit ceci, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et Jérémie 31, Bill y a cité ce texte ce matin. Jérémie 31, je t'aime, il a lu justement Jérémie 31, je t'aime d'un amour éternel, Dieu dit, c'est pourquoi je te conserve quoi? Je te conserve ma bonté. Bien-aimé, dans un temps futur, et le prophète Zacharie le dépeint si bien pour nous, Israël se repentira. S'il ne persiste pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. La bonté de Dieu va les pousser à la repentance. J'aime beaucoup ce texte dans Zacharie 12, 10. Et regarde ce que Dieu va dire ceci. Alors Dieu parle, je vais intervenir. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et regardez maintenant la repentance. Ils pleureront sur lui comme en pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme en pleure un fils premier-né. C'est beau de voir cela dans ce texte. Hein? Ce peuple qui mérite absolument rien, sinon d'être retranché de façon permanente de toutes les bénédictions de Dieu dans un temps futur, une génération future de Juifs, Dieu va répandre un esprit de grâce sur ce peuple, sa faveur imméritée. Et pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que Dieu est gracieux. Dieu est gracieux dans ses agissements à l'égard de l'homme. Son salut est par grâce. Ce matin, si vous êtes ici, vous êtes sauvés, c'est seulement par pure grâce. Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On n'a rien fait pour mériter cela. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Un jour, Israël, zélé pour Dieu, mais sans intelligence, Israël qui cherchait une loi de justice comme provenant des œuvres, Israël qui cherchait à établir leur propre justice, un jour, mettra tout cela de côté et ils vont accueillir finalement la grâce de Dieu. Et que c'est merveilleux, hein? C'est un si beau sujet, la grâce de Dieu. Tite 2.11 nous dit ceci, c'est la source de salut pour tous les hommes. Ça ne vient pas de nulle part d'autre. Seulement la grâce de Dieu qui nous amène, c'est la source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu qui nous libère du joug de la loi. Oh, que c'est, oh, que ça fait du bien, hein? De savoir qu'on n'est plus sous le joug de la loi. Ce n'est pas une excuse pour se vautrer dans le péché, mais nous pouvons par l'esprit maintenant accomplir les exigences de la loi. Ça, c'est Romains chapitre 8. Et la grâce de Dieu qui produit quoi? La justification. Tite 3, 4 nous dit ceci, il nous parle de la bonté de Dieu qui nous sauve, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Alors Dieu va donner cet esprit de grâce à Israël. Et deuxièmement, comme nous avons vu dans le texte dans Zacharie, un esprit de supplication. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un jour, Israël va invoquer le nom de Dieu. Dieu va dire ceci, « Il, Israël, invoquera mon nom. Ils vont crier à l'Éternel, ils vont prier, ils vont supplier le Seigneur. Je dirai, je l'exaucerai. Dieu va écouter, je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple! C'est mon peuple! Et Israël va dire, l'Éternel est mon Dieu. Quel revirement de la situation! Ce peuple qui a commis le plus grave crime de toute l'humanité, le rejet de leur Messie, lui qui est venu vers les siens ne l'ont point reçu, le reconnaîtra finalement comme tel. Il reconnaîtra aussi son terrible péché et brisé par ce fait, nous avons vu cela tantôt, ils vont pleurer amèrement. Il invoquera Dieu dans un esprit de repentance et de foi. Et quel beau texte dans Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Sauvé. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. La restauration d'Israël. Oh, que Dieu est bon pour Israël. La repentance remplace la résistance. La foi remplace l'incrédulité. Et troisièmement, la restauration va remplacer le retranchement. Ils ont été retranchés, mais partiellement, mais aussi pour un temps. Le texte au verset 23 nous dit ceci ce matin, Dieu est puissant. Dieu est puissant pour les greffer de nouveau, pour les remettre à leur place. Dieu est puissant. Et verset 24D nous dit ceci, « À plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. » Et là, Paul est en train d'apporter un argument là, qui est vraiment puissant, qui va clouer le bec de n'importe quel païen qui était tenté de rejeter le juif, de le mépriser, de penser que Dieu voulait plus rien savoir de lui. Et qu'est-ce que son argument? Il va dire ceci, les non-juifs, ceux qui ne sont pas un peuple sans Dieu, sans espérance, des étrangers, des idolâtres, des débauchés pour la plus grande partie, parce que c'était dégueulasse dans les villes païennes à l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Sont maintenant bénéficiaires des promesses que Dieu avait faites à Abraham, un juif. Si Dieu avait la puissance de prendre ce peuple-là, qui n'était pas un peuple, et le mettre justement dans cet olivier, où est-ce qu'ils vont bénéficier? Paul dit à plus forte raison, le peuple juif, avec tout le privilège, à qui appartient la loi, les promesses, les patriarches, l'alliance, le Q, tout cela! Il dit, penses-tu que Dieu n'est pas capable de remettre son propre peuple à la propre place? Il dit, écoute, humainement parlant et logiquement parlant, ça devrait être beaucoup plus facile. Et ça, c'est un argument. Ils seront greffés de nouveau. Et quel encouragement pour nous ce matin, quand on considère ce texte, cette restauration d'Israël, Dieu, son immense bonté. Le savoir, je fais une application aussi pour nous-mêmes, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand nous tombons, quand cela arrive, nous pouvons aussi compter sur sa bonté pour nous restaurer. Dieu est bon pour Israël, mais est aussi bon pour l'Église. Et quand sa bonté nous pousse à la repentance et que nous confessons nos péchés, c'est merveilleux de savoir que Dieu sera toujours fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, parce que c'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas une excuse pour aller se vautrer dans le péché, parce que le péché apporte des fruits amers. Mais c'est un encouragement que si on est dans le péché, qu'on sait quoi faire avec, comment en sortir. Parce que Dieu est bon. Et aussitôt le péché confessé, aussitôt le péché pardonné, aussitôt le croyant restauré. Quelle grâce, quelle bonté, quel sauveur merveilleux je possède, et nous possédons. Alors Dieu est bon envers Israël, mais la restauration aussi d'Israël révèle aussi non seulement la bonté de Dieu, mais aussi la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu en ce qui concerne tout d'abord le quand. Quand est-ce que cela se produira tel? comme on dit en bon québécois, là, c'est quand le timing de Dieu pour la restauration d'Israël. Si vous regardez vos versets 25 encore dans notre texte, Paul va dire ceci, « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. » Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, regardez bien, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ça, c'est un puissant témoignage de Dieu, complètement, parfaitement, totalement en contrôle. Et c'est lui qui va déterminer le camp quand la restauration d'Israël aura lieu. Il est souverain. Juste quelques observations en ce qui concerne le texte. Le mot mystère, ça n'a pas la même connotation que nous dans le sens qu'on l'emploie aujourd'hui. Quand on parle d'un mystère aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mystérieux. On ne sait pas, on est difficile, c'est un mystère. Mais ce n'est pas cela dans ce contexte ici. Le contexte du mystère, c'est une vérité qui avait été cachée, pas révélée dans l'Ancien Testament, et maintenant révélée pour l'Église dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'explication du mot mystère. Et je vous donne quelques exemples. Nous avons le mystère de Christ. Éphésiens 3, 6. Où est-ce que Paul va dire ceci? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas évident. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons cette révélation que quand le non-juif devient croyant, il devient co-héritier de Dieu, héritier aussi, co-héritier de Jésus-Christ, et aussi avec le juif, forme un seul corps qui est le corps de Christ. Et ils sont un dans le corps de Christ. Ça, ce n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, mais Paul y traite cela en Éphésiens, on le voit très, très clairement. L'enlèvement de l'Église, tu ne trouveras pas ça dans l'Ancien Testament. Mais dans 1 Corinthiens 15:51, Paul va dire ceci, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. » Quelle belle parole. Hein? « Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. » Ça, c'est notre espérance. Un jour, Jésus va revenir et l'Église va, on va partir pour le rencontrer. Alors, Paul va révéler ce mystère à propos d'Israël. Et dans ce mystère ici, il y a deux éléments. Dans un premier temps, une partie d'Israël seulement est tombée dans l'endurcissement. Et on a vu cela dans les textes précédents, qu'il y avait toujours ce reste, une élection selon l'élection de la grâce. Alors, ce n'est pas tout Israël, une partie seulement. Mais où est-ce que j'aimerais souligner, c'est le deuxième aspect de ce mystère, que cela ne durera que pour le temps prévu par Dieu. C'est ce que Paul va souligner dans le texte, pas avant ni après, parce que Dieu est toujours souverain. Jusqu'à ce que, ça c'est le mystère, jusqu'à ce que, ça c'est le timing de Dieu, la totalité des païens soit entrée. Et le mot totalité, c'est la plénitude. C'est le même mot qu'on a dans Romains 11, 12, quand on dit, Paul dit, quand sera-t-il quand ils se convertiront tous? Le mot, ça veut dire complet, la plénitude. Ou dans le sens, c'est qu'est-ce qui va arriver là, quand Israël va venir à sa plénitude? Sinon, ça chute. Il y a eu tant de bénédictions. Alors, quand ce peuple-là va être regreffé, il sera dans sa plénitude. Ça, c'est l'idée ici. La totalité, justement, des païens. Alors, le temps, le timing de Dieu, parce que Dieu est en contrôle, ça va être quand les païens élus seront à leur plénitude. Vous savez qu'est-ce que cela implique? C'est quand le corps de Christ va être complété, quand la dernière pierre non-juif va être ajoutée, quand le dernier membre sera ajouté. Ça, c'est la totalité des païens. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que c'est à propos du mot « entrée ». Quand on parle du mot « entrée », souvent dans la parole de Dieu, il y a une connotation qui nous révèle justement qu'est-ce que le texte veut dire. Dans Matthieu 5, 20, Jésus a dit ceci, « Je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point, c'est notre mot dans notre texte, dans le royaume des cieux. » Et Jésus, quand il est parlé de Nicodème, il a dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Alors, quand la totalité des païens soit entrée, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, qu'est-ce qui nous parle ici? C'est quand l'Église va être enlevée. Le corps est complet. Tous les croyants élus en sont entrés dans le royaume. Et c'est là que Israël sera restauré. Je pense à ce texte dans Thessaloniciens 4, 16. Quel beau texte, car le Seigneur lui-même, pas Michel, ni Gabriel, ni qui que ce soit, Jésus revient nous chercher personnellement. Ça, c'est un signal donné. Ça, c'est le timing de Dieu encore. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et qu'est-ce que Paul dit? Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et qu'ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jusqu'à ce que la totalité des païens, ça c'est pour nous, soit entrée. Et après cela, qu'est-ce qui arrive? Mais après ma compréhension de ce texte, cet endurcissement, cette mise de côté, c'est jusqu'à ce que Dieu maintenant est souverain, l'Église est enlevée, il y a la grande tribulation, période de 7 ans, il y a l'homme impie qui arrive, il y a le Babylone, l'Église apostate qui est là, 3 ans et demi de paix entre Israël et l'Antichrist, 3 ans et demi d'intense persécution. Le Seigneur revient pour détruire le royaume d'Antichrist, pour délivrer Israël de ses ennemis et pour le restaurer à sa première place de bénédiction. Jérémie 31, ce texte revient souvent ce matin. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Israël marche vers son lieu de repos. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Ça, c'est la souveraineté de Dieu qui fait en sorte que Israël sera restauré quand la totalité des païens soit entrée. Ça, c'est le quand. Mais il y a aussi le comment. Comment est-ce qu'elle va se passer? Regardez votre texte encore au verset 26. Parce que Dieu est en train de nous montrer là, que moi, je suis en contrôle. Ne vous inquiétez pas. Là, l'histoire progresse, mais moi, je suis en contrôle. Alors, il dit au verset 26, tout Israël sera sauvé. Et ça, nous avons ici un changement dramatique de la situation. Israël, qui est connu pour sa rébellion, un peuple au cou raide, un peuple reconnu pour son incrédulité, pour son endurcissement, se convertira au Seigneur. Et ça, c'est un événement qui va dépasser justement l'entendement. C'est un événement extrêmement glorieux. Regardez ce que le texte dit. Pas un, parce que c'est le libérateur viendra de Sion. Et s'il vous plaît, mettrez un L majuscule ici. C'est pas dans votre Bible, mais c'est un L majuscule. Parce qu'il y a juste un qui remplit ses critères. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Israël a eu beaucoup de libérateurs à travers son histoire. Moïse, libérateur. Ils étaient en esclavage en Égypte. Dieu les a envoyés un homme pour les libérer. Dans le temps des juges, ils sont là dans le pays, envoient ces cycliques et abandonnent Dieu. Là, Dieu permet que les ennemis les écrasent. Et qu'est-ce que Dieu? Il suscite un libérateur. Les hommes comme Othniel, les hommes comme Jephthé, Samson, Barak, Ehud et ainsi de suite. Mais Israël avait toujours besoin d'une plus grande délivrance de l'oppression de leurs ennemis. Ils avaient toujours besoin, cette nation, de la libération. La plus grande libération, c'est la libération du péché. de l'esclavage du péché. Et ça, c'était toujours le cri du cadre des Juifs pieux. Je pense ici à Psaume 14, 7, où David va dire ceci, « Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ?» Ça, c'était le cri de cœur de David, parce qu'il savait que cette nation avait besoin. Et dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait un reste pieux. Les hommes et les femmes comme Simeon, comme Anne, cette prophétesse, et quand elle a vu le Seigneur Jésus-Christ, elle est allée annoncer ça à tous ceux qui attendaient quoi? La délivrance d'Israël. Alors, il y avait toujours ce besoin-là. Et dans ce texte ici, devant nous ce matin, Dieu va répondre au cri de cœur d'Israël en leur envoyant le libérateur par excellence, le Messie, Yeshua, Jésus, qui sauve et qui fait quoi? Nous délivre de la colère à venir. Pour nous, l'Église, on peut regarder le Christ, qu'est-ce qu'il fait pour Israël, mais aussi il nous délivre de la colère à venir. Jésus, en tant que libérateur, nous délivre de toute œuvre mauvaise, de Timothée 4, 18. Et Jésus qui nous aime, nous délivre à délivrer de nos péchés par son sang. Quel grand libérateur! Et ça, c'est une marque. On a dit ce matin qu'on veut connaître notre Dieu, mais ça, c'est parce que Dieu est compatissant envers son peuple. Et dans Jérémie 31, où est-ce qu'on revient souvent à propos de ce texte? Je vous lis un texte qui nous démontre la compassion de Dieu. Dieu va dire ceci, j'entends Éphraïm. Éphraïm, c'est un autre terme pour Israël, qui se lamente. Tu m'as châtié. Et ça, c'est vrai. Il avait été châtié à cause, justement, de leur incrédulité. Il avait passé des années en exil et ainsi de suite. Et j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir. C'est le cri de son cœur d'Israël. Fais-moi revenir et je reviendrai car tu es l'Éternel, mon Dieu. Comment tu penses que Dieu va répondre à ce cri de cœur? Est-ce qu'il peut rester indifférent, insensible? J'aime beaucoup la réponse de Dieu. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri qui fait mes délices? Mais oui, bien sûr, c'est le peuple de Dieu, Israël. Dieu l'aime d'un amour éternel, il conserve sa bonté, car plus que je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Écoutez bien ici, aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui. Et Dieu aura compassion d'Israël en les sauvant, que dit le texte, en détournant de Jacob les impiétés. Le libérateur viendra de Sion. La compassion de Dieu, ce peuple qui se repent, qui crie à l'Éternel, et Dieu dans sa compassion va les restaurer. Mais aussi la compétence. Regardez bien verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et encore une fois, c'est Jérémie 31, lui l'a lu le texte. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le pain, l'alliance de Sinaï sur la montagne, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, là dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur. Nouvelle alliance. Ne me demande pas comment Dieu va faire cela. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il va mettre sa loi dans le cœur? Comment est-ce qu'il va écrire sa loi dans le cœur? Mais il le fait. Et quel est le résultat? Dieu dit ceci, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'il fait, parce que Dieu est compétent. Alors il va changer complètement ce peuple-là. Et ce peuple-là aura un cœur qui va rester attaché à l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Tout Israël sera sauvé, le texte dit, le libérateur viendra de Sion, il se détournera de Jacob, leurs impiétés, ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et finalement, la compassion de Dieu, la compétence de Dieu, mais aussi la confiance de Dieu. Et ça, c'est tellement important de voir ça dans le texte. Tout Israël sera sauvé. Regardez ce que Paul va dire au verset 12. Et ça, c'est ce qui me frappe ici ce matin. Paul, au verset 12 de ce texte, Romains 11, dit « Si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ?» Combien ça va, comment ça va être quand Israël sera dans sa plénitude? On voit leur chute et on sait ce que leur chute a apporté. Des riches bénédictions pour les non-juifs, le salut devenu accessible aux païens. À cause de cela, nous avons toutes ces riches bénédictions qui accompagnent le salut, le pardon, la purification des péchés, la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Toutes ces choses, on les a. Et ça, c'est la chute d'Israël qui nous a amené cela. Mais l'argument de Paul, c'est ici, quand Israël va être restauré, mes amis, quand il va être restauré, si leur chute et leur amoindrissement a apporté tant de bénédictions dans le monde, combien en sera-t-il quand il sera restauré dans la plénitude? Quand il se convertira. Selon ma compréhension, je suggère humblement que cela se rapporte au millénium où Israël converti et rétabli connaîtra ses plus grandes heures de bonheur terrestre et de gloire et sera aussi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et je vous donne rapidement les caractéristiques, qu'est-ce que Israël va produire à la fin de sa restauration. Le millénium, c'est un grand sujet, même aussi controversé, j'en suis conscient. C'est un sujet qui est très vaste, mais je voudrais vous donner juste quelques grandes lignes. Si vous avez la Bible MacArthur d'études, comme ici, si vous allez dans l'Ancien Testament, lui donne 17 bénédictions qui découlent justement de la restauration d'Israël et pendant le millénium. Je vous en donne juste si je veux vous épargner ce matin, juste voir que le temps est avancé. Alors, dans ce royaume, quand Israël sera restauré, quand Paul dit combien en sera-t-il quand ils se convertiront tous, quand Israël va dans sa plénitude restaurée, rétablie, et cela va justement nous amener dans le millénium, ce royaume. Dans le royaume, Christ, le plus grand fils de David, règnera en roi suprême. Ça, c'est une des premières choses que Israël va apporter. Jérémie 23, 5, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, à Israël, une germe juste. Il règnera en roi et prospérera. » Deuxième chose, dans le royaume, il va y avoir une paix mondiale qui prévaudra, garantie par le règne de prince de paix. Et on a besoin justement de cela dans notre monde aujourd'hui. Ésaïe 2, 4, « Il, Seigneur Jésus-Christ, sera le juge des nations. » L'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes et on n'apprendra plus la guerre. Ça va être fini. Pourquoi? Parce que le prince de paix va être sur le trône. Troisièmement, dans le royaume, Israël deviendra le centre d'attention du monde. Ésaïe 55, 3, 5, « Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. » Les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Alors, Israël va avoir une gloire là, extrêmement importante dans ce royaume. Quatrièmement, dans le royaume, la ville de Jérusalem aura une importance mondiale. Ésaïe 74, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Je te ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ça, c'est Jérusalem. Et finalement, dans le royaume, la mission d'Israël sera de glorifier le Seigneur. Ésaïe 60, 21, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays, car c'est le rejetant que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour faire quoi? Pour servir à ma gloire. Et je vous ai dit, ça, c'est un marque de la confiance de Dieu, de prendre ce peuple-là, et de le remettre à leur place, et aussi de permettre à ce peuple-là à le glorifier. Que Dieu est gracieux. Il ne faut pas que vous soyez jaloux d'Israël. Parce que Apocalypse nous dit que nous, l'Église, on va être là et on va régner avec le Christ, n'est-ce pas? Nous régnerons avec lui. Apocalypse 20, au verset 6. Ça, c'est Israël. Et ça, c'est justement sa restauration. J'aimerais juste faire une remarque avec un saut texte, Ésaïe 51, 15, parce qu'après le millénium, nous avons l'état éternel. Et remarquez ce texte ici qui est intéressant. Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Il va dire ceci: je suis l'Éternel ton Dieu, je mets mes paroles dans ta grâce. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Ça, c'est l'état éternel, le royaume éternel. Et pour dire à Sion, là, il revient toujours à Israël, tu es mon peuple. Même quand le royaume éternel va remplacer le millénium, Israël va toujours conserver sa place distinctive. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non. Il les a connus d'avance. Il a pris cette décision d'avoir une relation d'intimité avec ce peuple. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Il va garder cette relation spéciale avec Israël. Quel encouragement pour nous ce matin de savoir que nous avons un Dieu qui est bon. Mais un Dieu aussi qui est fidèle, souverain. Et quel encouragement pour nous aussi de remettre nos vies entre ses mains. C'est là seulement quand nous sommes dans la volonté souveraine de Dieu que nous pouvons devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. Comme Israël sera un jour. Et que nous puissions aussi le glorifier pleinement. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Tu es un Dieu qui nous dépasse. Tu es tellement extraordinaire et tu sais où ce que tu t'en vas avec le monde, avec l'histoire, avec nos vies. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, de prendre ces leçons que nous avons vues à propos de tes relations avec Israël. Comment tu es fidèle envers ce peuple pour le restaurer. Pour écouter le cri de cœur, de le désir de revenir à toi. Et comment aussi tu te plais, Seigneur, de leur donner cette place privilégiée dans le millénium pour que ce peuple puisse te servir et d'être une lumière pour les nations. Fais la même chose, Seigneur, pour nos vies. Donne-nous des cœurs qui sont dociles, qui sont réceptifs, qui sont promptes à se repentir, afin que tu puisses nous laver, nous purifier, nous détourner de nos impiétés comme tu as fait pour Israël, afin que nous puissions, Seigneur, aussi te glorifier. Demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.